Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le Fonds monétaire international attend des réformes profondes en Tunisie. Nous y reviendrons avec le président d'État Catol, l'ancien ministre des Affaires sociales, qui a manifesté vendredi dernier à Tunis pour protester contre l'accaparement des pouvoirs du président tunisien. Nous écouterons Khalil Zawiya. L'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens lance un appel à la communauté internationale. Son objectif, récolter 1,6 milliard de dollars cette année. La sortie ce mercredi au cinéma de Memory Box, le troisième film de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Les artistes libanais qui ont reçu en 2017 le prix Marcel Duchamp seront nos invités. La Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc, qualifié pour les huitièmes de finale, termine premier du groupe C au lendemain d'un match nul, 2-2 face au Gabon. La France a qualifié d'inacceptables les violences dont des journalistes ont été la cible en Tunisie lors de manifestations contre le président Kais Saied vendredi dernier. Une réaction de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Des policiers ont chargé des manifestants pour les disperser à grand renfort de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Ils ont aussi procédé à plusieurs dizaines d'arrestations. Le président d'État Catol et ancien ministre des Affaires sociales faisait partie des manifestants. Il revient tout d'abord sur la situation économique en Tunisie et sur les attentes du Fonds monétaire international. Entretien avec Khalil Zawiya.
La loi de finances de 2022 qui n'a pas été débattue du tout, qui est sortie par un décret-loi signé par le président de la République sans discussion, avec un débat juste au sein du gouvernement, prévoit un accord avec le FMI et en l'absence d'accord, cette loi de finances doit être révisée. Déjà, nous partons avec des conditions très très difficiles et une demande de crédit de l'ordre de 28 000 millions de dinars. L'accord préalable avec le FMI doit être prévu d'ici le mois de mars. On n'en est encore qu'à des discussions préparatoires ou de préalables, le FMI demandant des réformes importantes. Il y a eu un document qui a été fuité dans lequel le gouvernement s'engage à geler les augmentations de salaire pendant 5 ans, à diminuer de manière drastique, voire totale, tout ce qui est compensation des prix de consommation de l'essence et des biens de consommation courante, notamment les produits alimentaires, tout ce qui est compensé par l'État.
Et vous dites que ces mesures ne sont pas acceptables d'un point de vue social et risquent d'entraîner une crise majeure.
Oui, et déjà le syndicat, l'UGTT, a annoncé son refus d'accepter ce genre de conditions.
Quelles sont les alternatives aujourd'hui?
D'abord, l'alternative, les politiques, parce que le pays vit une crise de représentation, avec absence de parlement, absence de débat, absence de consensus, et on ne peut pas aller au-devant d'une crise financière de cette ampleur, et avec des réformes qui vont faire mal, sans qu'il y ait un accord avec les partenaires sociaux et avec l'ensemble des intervenants politiques. Aujourd'hui, nous avons devant nous un régime hyper jupitérien, pour utiliser un terme français, qui est plus que jupitérien, c'est un pouvoir personnel. Et c'est là tout le drame que nous vivons.
Et cela a un impact sur la situation économique aujourd'hui en Tunisie?
Qui penserait investir dans une situation politique qui est instable et imprévisible? Qui oserait investir dans un climat de conflit et un climat incertain sur le plan financier? Donc c'est, tout ça touche de plein fouet l'économie et l'investissement.
Et cette situation, cet accaparement des pouvoirs que vous dénoncez, c'était l'une des raisons de votre participation à une manifestation vendredi dernier à Tunis, un rassemblement qui a réuni plus de 1000 personnes.
Dans la dérive que nous vivons actuellement de la part du pouvoir présidentiel, il y a eu une décision du mois de décembre d'aller supprimer la date du 14 janvier, qui est une date symbolique en Tunisie, qui est la chute du régime de Ben Ali, et de dire non, le 14 janvier, ce n'est pas la chute de Ben Ali, c'est le début de la contre-révolution. Donc c'est une date qui n'est plus fêtée par l'État, c'est inacceptable, donc nous sommes descendus pour marquer le point, ce n'est pas au président de la République de tracer l'histoire d'un peuple ou du pays comme ça, sur un coup de tête. C'est une négation des martyrs de la Révolution, négation des blessés, de ceux qui se sont sacrifiés. Et le président voudrait réécrire l'histoire à son profit en gommant tous ceux qui ont milité, quelle que soit leur position. Et donc, voilà, nous sommes descendus pour ça et pour protester contre cette dérive autoritaire du régime et l'absence de recherche de consensus ou de débat, et même pas de débat, et avec une feuille de route qui est inacceptable.
Ce rassemblement de vendredi dernier était interdit officiellement pour des raisons sanitaires, la situation sanitaire que vous connaissez bien en tant que médecin. Vous avez choisi d'y participer. Comment les forces de sécurité ont-elles réagi?
Les forces de sécurité ont réagi de manière inattendue, violente. Il y a eu des scènes d'émeutes à Tunis le vendredi dernier, avec des arrestations, carrément des raptes, c'est pas des arrestations classiques. C'est-à-dire un groupe de policiers qui fend la foule et qui capture un citoyen qui est venu manifester, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, mais une répression dure avec l'utilisation de canons à eau, de bombes lacrymogènes, puis une violence physique importante et des motards qui fendent la foule à grande vitesse, et puis c'est pas des coups de feu, mais c'est des coups qui font des semences auditives pour faire peur dans le centre-ville. Et bien sûr, le centre-ville a été quadrillé dès le matin avec interdiction d'accès à l'avenue principale, l'avenue Bourguiba. Donc il y avait, c'est le chiffre officiel qu'a cité le président, 1200. Et comme c'est le chiffre officiel, donc ça doit être un peu plus. Je pense qu'il y avait facilement 3000 personnes dans la rue le vendredi dernier, ce qui n'est pas négligeable. C'était à peu près 5 groupes qui ont manifesté, et de tous bords. Il n'y a pas que les islamistes, il y a les partis sociaux-démocrates, il y a les familles des blessés de la Révolution, il y a eu une gauche radicale, le parti ouvrier, qui sont descendus. Il y a eu même des jeunes qui contestaient la loi de finances, qui sont allés protester devant la Banque centrale. Ce qui fait que le vent de la contestation est en train de prendre de l'ampleur en Tunisie.
Le président d'État Catol, ancien ministre des Affaires sociales, Khalil Zawiya. L'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens lance un appel à la communauté internationale. Son objectif, récolter 1,6 milliard de dollars cette année. Son commissaire général souligne que l'UNRWA est confrontée à une insuffisance budgétaire chronique qui menace sérieusement ses capacités à maintenir ses services. Il indique que la somme que l'UNRWA demande pour 2022 contribuera directement au bien-être des réfugiés palestiniens, aux efforts pour combattre et contenir le Covid-19 et à la stabilité régionale. La police israélienne a détruit ce mercredi à l'aube la maison d'une famille palestinienne. Une destruction dans le quartier sensible de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Au cours de son opération nocturne, la police a indiqué avoir mené 18 arrestations. La famille dont la maison a été détruite était menacée d'éviction depuis 2017. Des centaines de familles palestiniennes présentes depuis des décennies à Jérusalem-Est sont confrontés à des ordres d'expulsion. Les talibans appellent les pays musulmans à reconnaître leur gouvernement. Aucun pays n'a pour le moment reconnu l'exécutif formé par le groupe fondamentaliste. La communauté internationale attend de voir comment les talibans comptent gouverner l'Afghanistan après avoir largement piétiné les droits de l'homme lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. Et aujourd'hui, les femmes restent largement exclues des emplois publics et les écoles secondaires pour les filles sont pour la plupart fermées. La sortie au cinéma de Memory Box, le troisième film de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, artistes libanais qui ont reçu en 2017 le prix Marcel Duchamp. Leur film nous fait découvrir la mémoire d'une famille de la diaspora libanaise installée à Montréal. Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej.
Le film, même s'il parle des années 80, il a encore un écho incroyable avec ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression qu'il parle d'aujourd'hui. En fait, il parle d'aujourd'hui, même s'il a été tourné avant les derniers événements. Et c'est en cela que c'est très troublant.
Mais en même temps, c'est vrai que le film sort aujourd'hui en France. Il va sortir dans beaucoup de pays. Et on a été très soutenus parce que je pense que c'est une histoire, bien sûr, qui se passe au Liban, mais qui raconte aussi l'histoire de trois générations de femmes et comment justement, quelles sont les relations qu'on peut bâtir d'une mère à sa fille, qu'est-ce qu'on raconte de son passé, qu'est-ce qu'on raconte de sa jeunesse, comment
les secrets de famille.
Et je crois que beaucoup de gens s'approprient le film.
C'est c'est aussi un film sur le rapport qu'on entretient avec les images, parce que aux archives de Johanna, qui étaient des archives écrites, on a rajouté mon rapport, mes archives à moi, qui étaient plutôt la photographie. Et ces photos sont aujourd'hui revues avec les outils d'aujourd'hui, avec les smartphones, avec les images digitales, des outils qui nous permettent d'appréhender autrement le réel.
C'est un peu une histoire de la photographie.
Alors, Memory Box, une boîte à souvenirs en français, c'est un film sur la transmission, mais aussi sur l'émigration. De nombreux Libanais partent vivre à l'étranger. Il y a un risque de rupture dans cette transmission quand on émigre?
Il y a toujours une rupture, où en fait la rupture est déjà consommée au moment d'émigrer. C'est ce qui fait qu'on va émigrer. L'émigration est considérée toujours comme une sorte de renouveau, de régénération. Mais il y a toujours des choses qui reviennent ou qui restent.
Alors, l'émigration peut être considérée aussi comme une rupture très violente, en fait, parce que la plupart des gens qui partent ne souhaitent pas vraiment partir. Ils sont acculés à partir, comme dans le film, d'ailleurs. Mais justement, cette rupture, c'est souvent la deuxième génération qui naît dans les pays de l'exil. Moi, je suis aussi une petite fille d'exilée qui pose des questions, qui va poser. Et c'est ce que fait Alex, en fait. Elle s'approprie quelque part ses cahiers pour poser des questions, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené ta famille à partir et à essayer d'imaginer un pays qu'elle ne connaît pas, le Liban, de la années 80 et la guerre civile qu'elle n'a jamais, dont elle a très peu entendu parler, en fait. Et donc, je crois que le plus difficile dans l'exil, par exemple, si je me souviens un peu de notre famille, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est toutes les histoires qui nous ont été transmises par nos grands-parents, ce qui fait qu'on avait accès à une culture qui était aussi présente dans nos familles.
Vous avez construit le film comme un puzzle?
C'était assez complexe comme structure, parce que le film se passe donc aujourd'hui au Canada, mais en même temps dans les années 80, il y a beaucoup d'allers-retours dans les années 80 au Liban. Il y a une jeune fille qui va lire des cahiers. Il fallait trouver une façon très inventive, en fait, de raconter tout ça. Et donc, on s'est beaucoup basé sur la photographie, et la photographie et les textes sont écrits, qui sont souvent des textes que j'avais écrits moi-même, même si l'histoire n'est pas autobiographique. Ces documents-là sont un peu comme un puzzle, oui, c'est ça. Et surtout que Alex, l'adolescente, va s'approprier ces images par le biais des outils d'aujourd'hui. En fait, elle filme et elle photographie avec son téléphone, et elle va animer et reconstituer toute cette histoire fragmentaire, justement, comme vous dites, comme un puzzle qui prend forme sous ses yeux au fur et à mesure.
En fait, Alex va être complètement happé par l'histoire de sa mère, qu'elle va découvrir à travers ses cahiers et tous ses documents, et qu'elle va suivre comme une série, comme on s'intéresse à un personnage à qui il arrive plein d'aventures, et elle va découvrir des pans entiers de sa mère qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne soupçonnait pas, et qui vont l'intriguer. Donc, à l'origine, il y a cette jubilation de la rencontre d'une histoire incroyable, surtout quand on commence à connaître et à s'attacher au protagoniste. C'est un tout petit peu l'intérêt des histoires. Les histoires sont parfois passionnantes et on a envie de les suivre.
C'est une histoire fragmentaire que vous racontez parce qu'il n'y a pas une histoire commune du passé récent du Liban.
Le Liban a ceci de particulier, c'est que non seulement on n'a pas d'histoire partagée, c'est-à-dire que les livres d'histoire sont problématiques, ou la façon de raconter nos histoires sont problématiques, mais ça a des conséquences même sur la narration, sur comment on raconte un personnage, sur la figure même du héros. Cette guerre civile où on n'a pas de vainqueur, je crois que la notion de héros est altérée par cette situation. La linéarité et les causalités ne sont peut-être pas les mêmes au Liban qu'ailleurs. Donc, on s'est intéressé à toutes ces formes de récits qui, pour nous, sont incroyablement riches parce qu'on essaye de rendre compte de la complexité de certaines situations. Et oui, c'est en cela une forme très spécifique.
Mais en fait, l'histoire du Liban est une histoire qu'on interroge, l'histoire récente, bien sûr, parce que il n'y a pas eu après-guerre une sorte d'histoire commune qui a émergé. Donc autant il y a beaucoup de mémoires individuelles, chacun peut raconter plein d'histoires sur la guerre civile, justement comme ces histoires qu'on retrouve dans mes cahiers, mais en même temps, quelle est l'histoire qu'on partage? Et je pense que Khalil et moi, on s'est toujours intéressés à ça parce qu'on pense que l'histoire aussi nous permet, nous, de, en tant que peuple, une représentation différente en tant que personne, en tant que sujet aussi, souvent un imaginaire et commun. Et c'est peut-être ça ce qui manque beaucoup dans certaines situations au Liban. Bien que je crois que la révolution qui a eu lieu en 2019 a bien montré combien une grande partie du peuple libanais, malgré une histoire parfois difficile et assez soudée.
Les artistes et réalisateurs Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, leur film Memory Box sort en France ce mercredi. Ils répondaient à Loïc Barrière. La Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc qualifié pour les huitièmes de finale, termine premier du groupe C au lendemain d'un match nul 2-2 face au Gabon. Battu par les Comores 2-3, le Ghana est éliminé à 20h face à face Guinée-Bissau-Nigeria et Égypte-Soudan. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Patrice Leclerc, maire PCF de Gennevilliers, auteur du livre Apparaître, inventons un nouvel art de vivre populaire en ville, aux éditions Arcane 17, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.